Pour toi, nos ancêtres sont morts. Pour toi, nous nous battrons toujours. Assigné à résistance, tel est notre état d'urgence. 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 Embrassez-le, ayez bon cœur. Grenade aveugle, crâne fracassé. Gardien de la paix ou de la peur. Ainsi va l'état d'urgence. Profitons de l'occasion pour étouffer la résistance. Interdire les manifestations. Ni garde à vue, ni garde à vous. Aux injonctions, on reste sourd. C'est ainsi que nous sommes debout. Aujourd'hui et pour toujours.
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique, pardon, critique de la psychiatrie. Bonjour. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, on va vous proposer du son venu. D'ailleurs, on va écouter deux épisodes de podcast. Du potocasque démocratie. Potocasque démocratie. Alors, démocratie, psy, qu'est-ce que c'est? Ce sont des psychiatrisés et des soignants infirmiers qui ont formé un collectif, entre autres, d'autosupport. Démocratie, donc, se libérant de la violence institutionnelle. Les potocasques sont les discussions collectives. Ce sont des discussions collectives. Nous allons écouter deux épisodes. Une rencontre avec de démocratie avec le collectif belge Le Pianoctel et une deuxième épisode proposé, une discussion avec Le Pianoctel sur le statut de soignant. Et pour terminer l'émission, nous vous proposons l'interview de Romain Bonnel, le de médecine libertaire ou ex-médecine libertaire qu'on peut entendre dans une longue séquence de fin du film J.P. Archie et les autres fauteurs de troubles, un film de Jean-Claude Julien de 2012. Romain fait un topo de la situation psychiatrique en France. 2012, ça date, mais le propos n'a pas vieilli pour autant. Bonne écoute.
Citoyens, citoyennes, le temps est venu d'écouter le podcast de démocratie.
Paris, démocratie. Bruxelles, Pianoctel.
Donc là, ici, c'est le podcast numéro 5,
6. Non, 7. Numéro 7.
Donc là, on organise le FLOP, le Front de Libération Auto-Organisé de la Psychiatrie. On est avec...
J'aime bien, moi.
Donc, il s'appelle... On est à Bruxelles.
À Bruxelles. Bruxelles.
On est à Bruxelles. On est invité chez Pierrot, qui est un hôte incroyable. On vous donnera l'adresse, parce qu'il faut vraiment vous chercher. Ce gars est trop adorable. Et c'est le Pianoctel qui nous accueille aussi, quoi. Et parce qu'on vous a rencontré.
Ouais,
ça chauffe. Hein. Bah, expliquez-nous le Pianoctel, du coup, on veut savoir, on en veut plus.
Ah, tout le monde. Quand je disais que le Pianoctel est né de la fuite, et on est parti de l'hôpital parce qu'on on y a travaillé, en tout cas pour ma part, de 2001 à 2008. Et on était plusieurs ici, Mia et Hiro, que j'ai rencontré comme patient.
Voilà. C'est mon infirmière référente.
Ah, comme nous, Antoine était notre infirmière référente. C'est trop mignon.
Non, un on se l'a dit très facilement de ce que vous
avez. C'est un figure de nature.
C'est un figure de nature. Et pendant 7 ans, on a essayé à plusieurs à l'hôpital de modifier justement tout ce que tu disais autour de l'enfermement, du lien et de rendre ces soins humains à quelques-uns dans, on était quoi, 18 équivalents temps plein, on était 6 ou 7 à ne pas être en accord avec la direction, et on était soutenu par Charles Burkel qui était le médecin-chef, le psychiatre-chef de l'unité, et on a du coup fait plein de choses, on a été à la Borde, on a été à Trieste, on a été au Bénin, on a travaillé ensemble sur plein de questions sur la violence et sur qu'est-ce qu'on foutait là, et en fait ça a été très compliqué pour le management, donc très vite on s'est retrouvé à se cliver avec nos autres collègues, à plus vouloir attacher les gens, à plus vouloir fermer les portes à clé, en gros on va résumer, mais on est parti en faisant des tracts, en ayant contacté les syndicats, en ayant envoyé des lettres à tous les comités d'éthique
universitaires
pour dénoncer ce qui se passait, et ils nous ont répondu que les plateaux repas devaient être gérés par l'administration, enfin en gros, ils répondaient que à côté de ce qui était posé, et puis ils ont fini par licencier Charles parce qu'au bout de 20 ans, ils se sont rendus compte qu'ils ne parlaient pas le néerlandais. Et alors, ils l'ont viré en 15 jours. Le médecin-chef qui s'est fait virer. Et on a tous démissionné.
C'est l'histoire idyllique. Quoi.
L'histoire idyllique. Au bout de 20 ans, il ne parlait toujours pas néerlandais. Donc, on l'a viré. Ça n'avait rien à voir avec la question politique ni ce qu'il faisait. Il n'y a pas eu de débat. Tout ça a resté.
Tu vois,
en nous. Voilà.
Donc, l'infirmière-chef était néerlandophone.
Mais viré en 24 heures.
En 24 heures.
Paix à son âme de francophone.
Et donc on est certains, enfin certaines, à avoir démissionné, donc Mounia et moi. Et alors on a été sanctionnés parce qu'on est infirmière, et donc moi j'ai pris un an de sanction sans chômage. Parce que. On peut pas démissionner d'un métier en pénurie. Donc c'est un an sans allocation de chômage. Toi, t'as pris moins, t'as pris 48 semaines.
Mais moi, j'ai écrit une lettre.
Moi, j'ai pas écrit de lettre, j'ai pris 52 semaines. 53 semaines, exactement, la peine maximale. Donc,
Ok, de ta carrière.
Et donc, vous viviez de quoi? D'amour et d'eau fraîche?
Eh ben, on a retrouvé un autre boulot, mais pour survivre psychiquement, on a créé le Pianoctel. C'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait faire un lieu. Pour pas sombrer aussi, enfin, moi, personnellement, pour ne sombrer dans la dépression.
Moi, j'ai bien.
D'aller mettre des bombes, en fait.
J'avais bien aimé quand tu m'avais raconté qu'à l'époque, vous dites, bon, on est là, qu'est-ce qu'on va faire? Vous aviez envisagé un moment de faire une Syrie.
Oui. On avait trouvé un lieu à
Saint-Jean.
Une Syrie.
Syrie.
On s'était dit trouver un truc tout à fait à côté sur le travail.
On va monter une Syrie ensemble.
Finalement, on a prévu qu'on a fait un bar.
Ah, une Syrie.
Oui, pas une Syrie.
Une Syrie. Une Syrie, en fait. Une fille
et
ici en même temps.
C'est en deux saisons. Et moi, j'aime beaucoup ta formule quand tu dis, bah voilà, on sortait de l'hôpital, et on se dit comment avancer sur ces questions de soignant-soigné, payant-payé, créons un café autogéré où il n'y aura pas de soignant, il n'y aura pas de soigné, il n'y aura pas de payant, il n'y aura pas de payé.
C'est ça. Bah ouais, on avait essayé. Après, toi, t'étais encore hospitalisé après. Enfin, ça a été dur de partir aussi parce qu'on avait essayé de faire des trucs à l'hosto.
Et on avait resté. Il y a des trucs qui sont restés.
Et vous montez avec Pierrot ?
Bon, en fait, quand on s'est fait virer, le premier spectacle qu'on a fait, c'était un spectacle de marionnettes, qui était très mauvais d'ailleurs. Mais Pierrot nous a aidé à le faire parce qu'on a fait des journées, ça s'appelait de l'expropriation à la création continue. Et on a essayé de raconter à tout le monde, de tout le réseau. Donc on a invité plein de gens très connus pour que tous les autres professionnels viennent. Ils sont pas venus pour discuter. Ils sont venus, mais pas des gens de Saint-Jean. Il y avait personne de Saint-Jean. Alors qu'on avait démissionné à trois services, il y avait 12 personnes qui nous débattaient.
J'avais peur qu'on fâche que l'école.
Ils sont pas venus, mais tout le secteur et toutes les écoles et tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé à Saint-Jean, donc ça fait venir.
Et encore maintenant, il n'y a pas longtemps, il y a un psychiatre qui m'a dit c'est toi qui fais partie des gens qui sont partis. Ouais. Tu vois, donc
ça a marqué là. Quand même.
Ça a marqué. On a fait plein de trucs, tu vois,
on est des légendes.
Non, on a volé des trucs pour faire. On avait décidé de faire un rapport d'activité sur 20 ans, tu vois. Pour te dire le boulot qu'on avait décidé de faire,
on avait
volé tous les carnets d'activité pour noter tous les trucs en disant sur 20 ans, c'est ça les questions, les trucs. Et personne n'en avait rien à foutre. Donc en fait, ça juste fait plouf.
Non, ça fait du bruit.
Ça fait du bruit.
Mais les raisons, il faut que vous applaudissiez.
M'arrête. Non, mais vous êtes un... Ouais, vraiment. Hein.
Ouais. Et on a fait...
Moi, je vais démissionner, j'en ai rien à foutre.
Moi, je vais créer un café autogéré, c'est parti. Non, mais tu peux pas revenir en arrière quand t'as vécu ce qu'on avait vécu.
Ouais.
C'est impossible de continuer dans un service où on va te demander de fonctionner comme tu fonctionnais au tout début. Ça, c'est comme mourir, quoi. Ouais.
Monsieur Simba. Ouais, t'es ouf. Vous êtes attendu par le docteur Saïd.
Ouais, j'arrive, ouais.
Ça sent la cigarette ici.
Bah non, j'ai pas fumé.
Ouais, et moi je suis la reine d'Angleterre.
Bah non, vous êtes la reine d'Angleterre.
Ouais, c'est ça, ouais. Allez, on se dépêche.
Personne parle.
C'est un classique, ça.
mon tout premier stage en tant qu'étudiante en psychologie, je passais mon temps à me présenter comme bonjour Elodie, stagiaire psychologue, il y en a un qui m'appelle bonjour Philippe patient. Et là, dès le début, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas.
Ça m'a fait du bien intérieurement de rencontrer des gens comme ça là-bas, ce qui ne sont pas dans le jugement et ça nous fait sortir de ça m'a fait sortir de un peu de ma solitude et de mon monde quoi.
Un point de rupture avec l'établissement hospitalier qui dans sa logique de rentabilité empêche et de gestion des comportements empêche exactement tout ce qui aurait pu se passer au Pianotel et donc de faire le pari d'un autre lieu hors de l'institution où on pouvait annuler ou abolir ce truc de payant-payé, soigné-en-soigné, ça passait par l'autogestion et le bénévolat.
C'est vrai que je trouve aussi, dans ce sens-là, une famille, dans le sens où je trouve un lieu d'appartenance, où la façon dont on est ensemble, la façon dont on pense, une façon d'être ensemble où je me sens vraiment bien, où je me sens libre d'être moi-même, où j'ai pas peur d'être trop passé, je sais pas quoi. C'est l'aspect bistrot aussi que j'aime bien. Quelque chose d'un monde possible, quoi. Même si c'est en microcosme. Et qui n'essaye pas d'être, de récupérer un langage. Il y a eu de tout, quoi. Il y a eu des militants, des personnes du quartier, des gens qui venaient de la psychiatrie, d'autres pas, des personnes âgées, des êtres humains qui cherchaient un lieu. Et le fait d'offrir un lieu, c'était quand même... C'était la preuve que... Il manque des espaces où on peut tenter, expérimenter, rater, réussir.
Et moi, j'ai vraiment trouvé ça, j'ai vraiment trouvé un cadre sécurisant. C'est vrai, il y a l'absence de jugement, etc., d'accord, mais vraiment ça.
Bah, l'absence de jugement, ça fait peut-être partie des choses qui sont sécurisantes.
Oui, bien sûr, c'est ça. Et puis, la gentillesse des gens, je veux dire, comme tu dis, l'absence de jugement, le fait que tout est fluide, tout naturel, Le fait que, on vient tous d'horizons différents.
Non, et on accepte la différence dans leur entièreté, quoi.
Oui.
C'est ça.
L'humilité aussi.
Bon, j'ai 64 ans, et encore maintenant, je me pose la question, qui suis-je ? Que suis-je ? Et que vaux-je ? Je suis le résultat de quoi ? D'un enfant de 8 ans qui est resté 8 ans, mais qui pleure tout le temps parce qu'il n'a pas vu, qu'il n'a pas pu faire naître, réaliser ce qu'il est. Il a supporté la société, il a supporté les sociétés, comment dire, les stratagèmes, il a supporté la méchanceté gratuite à peine sous la ceinture et tout ce genre de choses. Et finalement, garder quand même une certaine forme d'identité en restant humble, humain, sociable, tout en ne sachant pas encore qui je suis. Parce qu'on parlait, et comme on dit au Pianotel, je puis dire, voilà, soumis tout ce qu'on veut, donc très soumis, très humble, mais quelque part, il trouve une forme d'identité et de personnalité qui m'est utile. Et qui est utile aux autres, et partagé avec les autres, dans ce genre de choses. Pour dire, voilà, je suis bizarre, je suis excentrique, tout ce qu'on veut, mais quelque part, la normalité, t'en as rien à cirer.
Nous, on a commencé, on était à l'hôpital, quoi.
Oui.
Et on commence à l'hôpital et c'était le soin. Mais quand on a vraiment commencé à se rendre compte de qu'est-ce qui soignait, on se rendait compte qu'on n'était plus du tout dans le cadre hospitalier. L'hôpital ne soigne pas.
Tu vois, le piano m'a permis de m'affranchir de ma maladie, en fait. Je me suis jamais senti...
C'est un peu ce que je voulais dire quand je disais...
Je me suis jamais senti aussi normal que là-bas.
Mm-hmm.
Et moi, allez, c'est une maladie qui a pu me faire peur. Mm-hmm. Tu vois, je me suis vraiment affranchi de cette peur.
C'est ça.
Et voilà.
On se rendait compte que soigner, ça nous soignait aussi de comprendre ce qui faisait soin, ce qui faisait l'humanité. Ça nous empêchait de nous rigidifier dans nos statuts professionnels et peut-être de crever de l'intérieur. Parce que finalement, à force de correspondre à des statuts, il y a des choses en nous qui meurent, quoi.
Il y a une profondeur au mot. Donc, parce qu'elle porte tout ce monde. Donc, dans le monde politique ou dans le monde d'organisation de travail, dans une grande société ou je ne sais pas quoi, on utilise des mots à toutes les sauces, comment dire, et voilà, donc ces mots sont galvanisés, mais quelque part, on les dénature et on met quelque chose d'autre dedans. Alors que les mots, à la base, veulent dire, la signification veut dire ce que ça veut dire.
Moi, j'aime bien ce truc-là de dire, le radical, c'est comme en grammaire, quoi. C'est ce qu'on peut pas enlever, sinon tu perds le sens du mot. Mmh. C'est ça.
Ouais, ouais, ouais.
Et c'est plutôt comme ça. Donc ce qui est radical, c'est si on retire ça, le lieu peut pas être ce qu'il est. Donc c'est pas radical en opposition à quelque chose. Mmh. Ni, si on nous situe dans la marche, c'est parce que le monde fonctionne comme il est, mais on choisit pas d'être dans une marche. Parce qu'il faut un peu de violence, quoi. Il faut un peu déchirer le décor pour pouvoir implanter quelque chose. Ça se fait pas avec de la douceur, quoi. Mmh. Ça se fait avec du radical, ça, il faut... Si la violence doit se situer quelque part, elle est à ces endroits-là.
Ouais. Dans le mot normalité, il y a le mot norme. Mais quand le mot norme devient tellement normalité, normalité, parce que c'est évident, beaucoup de choses dans la vie ne sont pas évidentes du tout, il faut avoir une largesse d'esprit, quoi. Et comme dire, un recul face à la norme, pour dire, voilà, comment est-ce que j'ai réagi à la norme, et comment est-ce que je peux... apporter discrètement et modestement, sans m'imposer, quelque chose à une situation pour faire de sorte à ce que la vie communautaire soit, comment dire, beaucoup plus agréable, quoi. Mmh.
Moi, franchement, le dimanche, quand je franchis la porte du piano hôtel, je dis dimanche parce que c'est quand même un des moments où il y a ce côté où on ressent peut-être le plus le côté petite famille, oui. Parce qu'on mange, parce que c'est dimanche, oui, oui. Parce qu'on retrouve les mêmes têtes. Mais moi, à chaque fois que je franchis la porte le dimanche, j'ai l'impression que je me prends une bouffée de tendresse.
Mmh. Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Moi aussi.
Ouais, toi aussi,
moi aussi.
Ah, c'est trop joli, ouais. Tu vois.
Oui.
Démocratie. Bruxelles. Paris. Pierre Nocteur.
Et le bar, c'est venu ensuite, comme idée pour...
Oh, très bonne question, ça.
Ou vous avez monté d'autres trucs avant et le bar est arrivé après.
Vous avez fait un tripot, je crois, avant. Des jeux d'argent, tout ça. D'argent.
Non, on n'avait pas de thunes, alors on s'est lié avec un collectif. C'était le collectif Antonin Artaud.
C'est un club.
Le club. Enfin, c'était un club, c'est et nous, on était un collectif.
C'est
un
moi, c'est comme ça que j'ai rejoint le club, parce que j'étais stagiaire psychologue.
Déjà dès le départ.
Le club Antonin Artaud.
Le club Antonin Artaud, c'était un regroupement de soignants qui était
C'est toujours.
C'est un centre de jour. Et c'était dirigé par un psychiatre qui s'appelle François Tirciaud et qui a écrit beaucoup de livres. Dans la fonction club, il voulait faire un bar, sauf qu'il voulait faire un bar du centre de jour. Avec les normes des soignants, avec des soignants qui encadrent.
Nous, sauf que ça avait été
on pourrait faire un truc un peu différent. Donc, comme on n'avait pas de sous et qu'on n'avait pas de thunes et pas de moyens d'avoir. On n'aurait jamais reçu un bâtiment du CPS, donc du Centre public d'aide sociale, donc qui abrite le piano hôtel.
Mmh. Avec l'équivalent chez nous des centres d'action sociale, chez vous, des trucs hyper puissants.
Ils ont une propriété foncière énorme, c'est le plus gros propriété.
Oui.
Ouais. C'est le plus gros propriétaire.
Ils font aussi bailleur social.
C'est le plus gros propriétaire foncier de Bruxelles, le CPS. Donc ils ont plein de.
C'est les grands bourgeois.
C'est une grosse institution qui, du coup, a beaucoup de bâtiments.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent.
On n'a pas vraiment d'équivalent. Tu vois, c'est l'organisme qui verse.
Ce serait pour les HLM, mais ça.
C'est l'organisme qui va.
Qui va faire les adresses de référence quand tu vis en rue, qui va gérer toutes les actions d'aide sociale.
Ah, ok.
Ils vont donner ceux qui donnent les bourses à l'intégration.
J'ai aussi ton statut médical dans le sens où si t'es, tu vois, si t'as rien, t'as un statut VIPO, un peu comme l'équivalent, enfin c'est tout ça.
C'est la CAF, la RS,
ouais,
le bailleur
HLM. Qui va voler mon briquet ? Moi je veux bien Spritz, Elodie.
Même, je sais plus qui disait ça tout à l'heure, mais il y a des individus qui se permettent d'être eux-mêmes parce que l'ambiance du pianoctel part. Par sa folie, excusez-moi du terme, amène elle-même à cette position libératrice. qui est très beau au piano hôtel, c'est qu'il y a une hybridation.
C'est juste cette
semaine. Ça n'est pas ta faute.
C'est
ce sera pire encore quand tu auras mon âge.
Ouais. Je suis en état de choc, les années me stoppent, je passe ma route. Doute de ton pouvoir, tu donnes pouvoir à tes doutes. Ta liberté au parloir, tu seras toujours concerné. Quand tu penses à ton futur, tu n'y penses pas qu'à moitié. Depuis maintenant toujours, je ris, j'envie les rois. J'ai toujours vu les riches, toujours plus riches que moi. On m'avait promis au bronze, mais on veut briller comme l'or. La rue cause, la première école à cause. Père, six causes, quand tout ce que de moi je te propose. Je prends ma peau, je prends ma peau devant de l'esprit. Tu rêves d'être large, comme un braqueur de vie. La rue cause, la première école à cause. Père, six causes.
Citoyens, citoyennes, le temps est venu d'écouter le podcast de Démocratie.
Paris, Démocratie. Bruxelles, Pianoctel.
Ouais.
C'était important aussi qu'il y ait des soignants en Démocratie et que vous ayez aussi vos espaces de réflexion parce que, en fait. C'est aussi de l'ordre du traumatisme.
D'être bourreau.
Ouais. Finalement.
C'est hyper violent quand tu dis ça, c'est trop fort.
Non, c'est pas vrai, quoi.
Si, c'est pas
vrai.
Ça veut pas dire que c'est fort.
Bien fait de relever la
tête.
C'est fort.
Si,
regardez
en face, on a traumatisé des gens. Moi, j'ai attaché des gens. J'ai enfermé des gens. Et bien sûr, j'étais contre à ce moment-là.
Du rouge.
Ou même des fois. Même des fois, j'étais pas si contre que ça. Je justifiais le système.
Il y a quelque chose qui t'empêche de penser.
Quelque chose de l'ordre du sens.
Ça t'empêche de penser. L'institution, elle fait tout pour que tu penses.
Mais c'est maintenant que j'en suis sorti que je comprends aussi bien mieux les mécanismes. Et c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas diaboliser les collègues qui sont restés.
Non, pas du tout.
Qui sont pas foutus de penser, mais parce que rien n'est, comme tu disais, rien n'est fait pour penser. Quoi.
Rien n'est fait pour penser, tout arrête tout le temps. Tu vois, tout arrête. Enfin, je trouve que dans le film de Sainte-Anne, tu vois que ce n'est pas les mêmes effets sur les gens, mais l'absence de pensée, ça réduit un truc de protocole.
Oui, c'est ça.
Attaché, jamais depuis jamais. Tu vois,
il y a plein de choses qui sont là. Des pattes, tout ça.
Mais pour sortir de ça, le pianoctel, c'était pour dire qu'on avait tous des
possibilités. Moi, je l'aime que
en fait, on devait sortir de soi, soigner en famille et faire un bar, ça nous obligeait à sortir de ça, tout en gardant la question de la fragilité, une autre fragilité ensemble, à tout le monde, et pas ceux qui savent et qui devraient avoir.
Ouais, les sachants et les sachants.
Et que tu vois, bien sûr qu'on a tous une histoire et qu'on l'utilise à un moment, mais ça n'empêche que c'est. Tu disais, attention à la folie sans être un bistrot de fou. Moi, pour mes collègues, j'ai l'air d'une tarée, quoi, tu vois, parce que je fais des trucs avec des gens bizarres alors que je pourrais aller faire du. Ouais, mais ça. Bizarre, hein. Je pourrais aller faire du pilate, quoi, tu vois. Ça me rendrait mieux dans le truc. Donc, t'es un peu dans l'entre-deux tout le temps.
Parce que quand t'es avec des gens bizarres.
L'énorme pote. L'énorme pote.
Moi, j'ai des collègues, elles viennent pas me voir jouer parce qu'il y a potentiellement des gens qu'ils auraient eu en thérapie qui jouent dans la pièce. Le point du truc, c'est-à-dire que je peux pas venir, il y a truc musclé là.
Le conflit des espaces.
Oui, ils vont venir dans un endroit. Et que moi, ouais, tu te rends pas compte de t'habiller du vin au pianotel, il y a des gens qui t'ont vu, je sais pas quoi, je suis pas en train de travailler.
Ouais, on a eu ça, genre, avec toi aussi. Ouais, ça fait ça. Tes collègues aussi, t'es un TTP, c'est un
TTP. Bougour et Curcuma. Dédicace à Bougour et Curcuma d'ailleurs.
C'est qui
vraiment,
c'est qui sans vous curcuma.
C'était les deux sorcières du CATP où je travaillais, non content de martyriser les fous et les folles du CATP, ce qui peut tout à fait légitime.
Et en plus, elle me c'était pas légitime.
Mais ouais. Parce qu'à un moment donné, quand ça peut plus être sur les gens, c'est sur les collègues.
Tu deviens dissident, en fait. Tu deviens dissident dans ton propre métier, c'est ça?
Ouais.
Mais c'est important de le dire. C'est important de le dire.
Le premier problème qui s'est posé, c'est que moi, je tutoie. Je tutoie les...
Ah oui.
S'ils sont d'accord, je tutoie. Mais vraiment, politiquement, quoi. C'est-à-dire, on est au même niveau. Je ne sais pas si la question se pose en Belgique, mais en France, c'est très important.
Voilà,
à la base. Mais moi, j'ai du mal à m'identifier comme infirmière. C'est vraiment un truc. C'est
pourquoi? Parce que t'es pas une femme.
Infirmière. On est 80% à être des femmes.
J'ai passé toute ma vie à être mégenrée. On a
c'est vraiment j'ai du mal à investir ce terme
complètement la merde
de je sais pas, c'est moche quoi.
Et puis, parce que tu le vis, mais tu le vis comme moche.
Moi j'ai des pierres.
Mais tu le vis mal parce que tu t'as intégré ce, je te dis, ce vécu traumatique.
Et pourtant, qu'est-ce que t'es belle.
C'est comme moi, pendant des années je supportais pas le mot bizarre. Pendant des années je supportais pas le mot bizarre. Bah toi, pourtant bizarre c'est pas un mot horrible. C'est un super mot.
C'est vrai qu'il est bon. C'est quoi la phrase? Et bizarre, c'est l'effet secondaire de quelqu'un de génial.
Ah oui, c'est ça. Être bizarre, c'est l'effet secondaire.
Mais moi ça me faisait briller quand on disait que bizarre. Ça me faisait briller, ça me faisait des crises d'angoisse et tout. Et quand t'as pas un simple mot écrit de lettre d'angoisse, c'est que...
C'est qu'est-ce qu'on fait de ce truc.
C'est là où je vous dis que vous êtes aussi des traumatisés de la psychiatrie, quoi.
C'est pour ça que le pianoté, ça fait un appoint politique.
Oui, c'est pour les acteurs, on est
par rapport à toi.
Moi, je peux supporter d'être un psychiatre. Ça, c'est pour les gens de Twitter, ça.
Je peux supporter d'être un
psychiatre. Il n'y a pas de menace.
Mais franchement, on n'aurait pas été traumatisé par la psychiatrie, on aurait été traumatisé par autre chose.
On est tous... Ah, mais on est tous traumatisés par plein de choses. Ça, il n'y a pas... Ça, il n'y a pas... Ça, il n'y a pas à chier.
C'est la base.
C'est la base. Ça, c'est la vie.
C'est pour ça que le piano tel fait un peu parfois
mais,
des trucs radicaux.
Mais on peut choisir de...
Il y a un podcast qui est sorti sur l'inceste, je crois. Ouais. Il y avait une nana qui disait les études montraient que 70% des gens en psychiatrie avaient subi des traumatismes. Au-delà de la question de la psychiatrie. Quoi. Et en fait, on se disait, putain, mais c'est la psychiatrie ne parle jamais de trauma. N'est pas formé sur
oui, ça c'est un vrai
truc. Ah, moi, mon psychotrauma, je me le suis diagnostiqué tout seul.
Bah, moi, pareil. Ils étaient là en mode, je crois que vous avez une dépression. Et moi, j'étais là en mode, et ils voulaient que je parle de mon traumatisme, qui était du harcèlement scolaire. Et en fait, je n'arrivais pas à en parler. Parce que je suis désolée, moi, je me renseigne sur Internet 2 minutes et j'apprends que les gens qui ont un traumatisme. Parfois ne peuvent pas en parler. Ça fait partie du fait du traumatisme de ne pas réussir à en parler. Alors ils étaient en mode mais parlez-nous de ce que vous avez vécu. Moi je suis en mode bah je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Ouais, c'est là, vous savez.
Je suis désolée, mais il me semble que t'as pas envie de t'en sortir.
Bah ouais, là. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé. Bon, la fun fact, c'est que je suis arrivé à un rendez-vous psy, du coup, à l'hôpital quand j'étais ado. J'étais ado, vous vous rendez compte. Et puis j'ai dit, bon, ben écoutez, on va pas parler. Et je me suis assis, je les ai regardés. Et là, tout d'un coup, le psychiatre s'est énervé, il m'a dit ah, vous vous rendez compte que c'est dans les fonds publics qu'on. Caca.
Nerdier. Des infirmiers charcutiers viennent pour te casser la tête. Tu te la dures pour la tuer. Ils te canisent comme une bête. Les psychiatres policiers viennent pour t'électrocuter. Tu peux crier, tu peux pleurer. Il y a des murs pour t'écouter. Pavillon 36, je veux pas être oublié. Pavillon 36, je veux pas être enfermé. Pavillon 36, je veux pas être oublié. Pavillon 36, je veux pas être enfermé. Nerf. Le pavillon des oubliés, ça sent la merde et le vomi. Un pauvre jaloux atomisé, tape dans ses mains et dans sa pisse. La nôtre juste déconnecté, prostré sans mort reste accroupi. Si vous êtes gravi juif, quartier des crimes thérapeutiques. Pavillon 36, je veux pas être oublié. Pavillon 36, ma pensée rectifiée. Pavillon 36, ma tête a explosé. Pavillon 36, tout électrocuté. Nerdier. Nerdier. Ce n'est pas en Thaïlande, il y a le quoi.
Et
vous ne pouvez pas avancer un peu cette, ce que je disais tout à l'heure, cette thèse du trauma du soignant.
Mais moi, mais à partir du moment où je me vois pas comme soignante, j'ai pas
un trauma de soignant. Mais peut-être que ce serait politiquement intéressant.
Ça, tu n'en sais rien. Tu as peut-être un trauma de soignant refoulé.
On se sent pas soignant, après, on est quand même désigné comme tel. Et à certains moments, le fait d'être désigné et situé comme tel, même si tu n'acceptes pas le truc, c'est le côté statutaire.
Est-ce qu'il y en a d'autres?
Tu ne sais pas y échapper que par le.
J'avais goûté.
Moi, la différence, c'est là où je travaille, je ne suis clairement pas.
Roxane, le gars, regardez.
Tu peux dire où tu travailles,
Lou.
Ouais, mais t'es quand même engagé. Avec
non, merci.
Tu peux dire où tu travailles,
Lou. Eh oh, ça va les soignantes, hein.
Non, mais c'est rare, démocratie, qu'on puisse parler entre soignants.
Et là,
j'en ai un peu marre.
On est un peu invisibilisés.
D'ailleurs, si les fous et les folles, vous pouvez sortir en parlant entre grandes personnes.
Il s'excusait d'être bourreau, donc dites-vous qu'il a grandi dans son trouble.
Mais je sais pas lequel
a évolué dans son
trouble. On est situé dans un statut, mais une fois que tu crées d'autres conditions de contexte, ce truc-là il disparaît.
Est-ce que ça ça transforme aussi, moi j'ai une question, est-ce que ça transforme toi quand t'es au boulot, ta pratique, le fait d'avoir fait l'expérience du piano octave et d'être comme ça sur des rapports qui n'ont plus grand chose à voir avec le soin classique, en tout cas?
Arrête de faire ton boulot.
Et est-ce que ça t'a changé, quoi?
C'était comme ça dès le début, c'est ça. Okay. C'était comme ça dès le départ.
T'es compris quand t'étais à l'hosto
Okay. On n'allait pas dès le départ, quoi. On n'a pas arrêté de chercher. Si on s'est rencontré qu'on est devenu par des questions de sensibilité, plusieurs à vouloir faire quelque chose à l'intérieur de l'hôpital, c'est parce qu'on était plusieurs à avoir la sensibilité, l'émotion active qui fait qu'on ne pouvait pas accepter. Et donc on l'énonçait. Et donc le fait de l'énoncer, il y avait des alliances qui se sont faites. C'est souvent le silence. Il y a un silence quand on fait des équipes et du coup on ne peut pas faire des alliances. Mais si on parlait des sentiments, des émotions, il y a des alliances possibles. Et dès le départ, parce que dès le départ, on sent que ça va pas.
Mais ça, c'est quelque chose qu'on a en commun, parce que moi, ça a été ça aussi dès le départ. Enfin, jamais, à aucun moment, ça m'a semblé normal.
Il y a quand même un
jeu.
Oui, mais il y a quand même un moment où ce truc-là.
Oui, moi, je pense que j'aurais été toute seule.
J'ai pas le droit de parler sans
Vous avez eu assez la parole.
Ouais, les soignants, c'est bon là.
C'est parce qu'on est beaucoup. C'est parce qu'on était plusieurs et qu'on a réussi à
se faire.
Mais seul, je pense que c'est. Moi, je vois. J'arrive à tenir cette place un peu isolée maintenant.
Mais non, mais ce que je veux dire. Roxane, ce que je veux dire, c'est que ce truc, tu le sens dans la rue, quoi.
Quoi ?
C'est pas un machin de la psychiatrie, c'est un truc que tu sens dans la rue.
Oui, mais t'as raison.
Tu le sens dans la rue, quoi. Tu le sens quand tu sors de chez toi. C'est un machin qui te travaille en permanence, comme ça, dans cette putain de société où on est tous coupables.
Ça t'appelle tout le temps.
Ça t'appelle tout le temps.
Non, c'est ça. Je veux pas que dans les murs de
l'hôpital,
c'est tout le temps actif. Ouais, ça déborde vachement les murs de l'hôpital et de la psychiatrie. C'est un machin qui concerne tout un chacun. Parce que c'est quand tu mets un pied dans la rue, tu le vois, ça, tu le vois. Enfin, je sais pas, d'après votre expérience de soignant, je sais pas. Mais n'empêche, moi.
On peut en faire à 100 000. Hein.
Moi je croise le premier type.
Le même des diagnostics.
La première bonne femme que je croise dans la rue, pour moi, c'est un soignant et un soigné, quoi.
Voilà, merci.
Il n'y a pas de différence, quoi. Il n'y a aucune différence, quoi.
En fait, c'est des cartes d'un jeu de rôle.
Mais
oui. Et on n'est pas obligé d'y coller ni
de façon exactement.
Négative. Quoi. On n'a jamais été ça. On nous a donné ça, puis on se dit, faut que je m'en débarrasse, quoi. Et on l'a fait.
Mais on veut s'en débarrasser.
Quand tu te débarrasses, t'as 50% de Pôle emploi qui te sont donnés. Tu vois, donc, il y a quand même des petits détails qui font que c'est pas juste.
Paris.
Bruxelles.
Démocratie.
Bien noté.
D'un point de vue plus politique, je considère que c'est important de faire la différence parce que je pense qu'il y a un vécu propre aux soignants qui est qui est abordé aussi entre soignants. Et nous, c'est peut-être ce qui nous manque un peu à Démocratie, c'est que je pense que les soignants ont aussi besoin de parler ensemble, parce que c'est pas qu'une histoire de on est fou, voilà, voilà, voilà. C'est aussi une histoire de système qui ne fonctionne pas et qui met des gens dans des situations horribles. C'est pas normal d'être bourreau malgré soi. Et même le fait que vous rejetez le mot soignant, ça veut dire que pour vous, soignant, ça ne signifie plus soigner.
Pas dans ce contexte-là. Parce que c'est un titre, c'est un statut. C'est pas le mot.
C'est pas le mot.
Non. C'est une pancarte. C'est une pancarte.
Oui, mais moi j'ai cette démarche là de penser la question du soin avec les gens concernés. J'ai aussi moi j'ai la particularité de moi avoir me penser aussi en tant que soigné de mon côté, mais ça veut pas dire que en tant que soignant j'ai pas des intérêts particuliers qui sont pas les intérêts des personnes concernées. J'ai mes propres intérêts. Et
le fait qu'on s'allie.
Et je crois qu'on a discuté, nous, en tant que soignants, de pour être tout à fait déconstruit. Tu vois, comme nous, les blancs, on a peut-être intérêt à se parler entre blancs de tout ce qu'on garde comme stigmate de nos passés coloniaux, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit là.
Si,
on a été des bourreaux, on a été, même si nous on est rebelles par rapport à ça, même si on essaie d'inventer d'autres formes, ça veut pas dire qu'on n'ait pas été pris nous aussi dans le système, c'est ça que je veux dire.
On n'est pas obligé de le faire à nous. On peut dire que c'est ça le débat et que tout le monde participe. Parce que ça fait partie du même sol. Si on se sépare, on n'a pas l'énergie des autres, de tout le système qui est présent, de tout celui qui...
Oui, oui, mais les deux doivent être ensemble, c'est clair.
Ça ne doit pas être un huis clos entre...
Non, je suis d'accord.
Après, c'est plus une question de... Oui. Ouais, c'est ça, c'est le cadre. Non, t'as raison, c'est le cadre. Parce qu'il ne faut pas faire un truc où, si tu veux, t'es psychiatrisé, t'as pas envie de venir. Peut-être qu'il y aurait des psychiatrisés qui auraient envie de venir, il y en a qui n'auront pas envie de venir, parce que... S'en foutent de votre question de soignant. Mais il y en a qui vont participer. Bien sûr.
Et ça ne nous empêche pas. C'est la forme, en fait. Il faut changer toute la forme dans laquelle on a évolué avec ces questions-là. Toutes ces questions du soin, toutes ces questions d'accompagnement, c'est des questions humaines. Comme on disait,
tout vois,
l'amour
a,
et tout ça, c'est des formes.
On a peut-être aussi des questions propres de dire comment nous, on va convaincre nos collègues qu'il faut changer les paradigmes, comment nous on fait, tu vois. Ça, c'est peut-être des questions qui sont propres à nous.
Il y a peut-être
des questions propres aux psychiatrisés, il y a peut-être des questions propres à nous, et ça veut pas dire qu'on doit pas être en permanence en discussion.
Ouais, mais je sais pas s'il y a des questions propres à nous, parce que
c'est le même terrain, il faut
descendre. Oui, c'est ça, et c'est dans le principe même, tu sais, quand on en revient à la contradiction d'avoir une direction verticale quand tu travailles à Housing First. Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où on interroge ces relations qui reposent sur une forme de domination et d'alignation, qui sont toutes relations soignant-soignée. Je ne sais pas dans quelle mesure ça a du sens d'avoir des questions de soignants, parce que justement, il s'agit d'être ensemble collectivement dans un mouvement de masturbation par rapport à ces catégories.
Il faut transformer la question.
Oui, mais parce que c'est aussi comment collectivement on re-questionne tout le système. Non, mais comment collectivement.
Oui, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relations de soins. C'est sûr qu'on ne peut pas nier les relations de soins. C'est pas les relations de soins.
Pourquoi c'est intéressant à un moment donné aussi de faire des groupes en non-mixité, tu vois, et dire là, il y a les usagers. Pourquoi on refuse par exemple qu'il y ait des groupes de parole qu'avec des fous et des folles? Il faut toujours qu'il y ait un groupe de parole avec un soignant.
Ah non, pas du tout.
Non, d'abord toi.
Pas du tout.
D'abord toi.
Dans les institutions.
Tu
m'arrêtes.
Mais
justement,
on a décidé.
Là, ça a mis du temps, mais justement,
lancé un groupe d'entraide pour des personnes contentes des voix. Ça, et là, aujourd'hui, ce groupe,
il a complètement tout encore.
Ouais, c'est vrai.
Bravo, Marc. Le groupe d'entraide fait part pour les personnes comme
moi. Mais moi, je dis que ça, c'est...
Il est courseur, je vous préviens.
C'est un vrai truc. Pour ça, vous sentez que des gens qui ont des intérêts... Les conditions et des intérêts communs s'organisent. Et peut-être que nous aussi on a des questions spécifiques, la hiérarchie, l'institution, notre rapport à l'institution n'est pas la même chose que du point de vue d'un usager. Nous on a d'autres enjeux et que ça il faut qu'on les discute dans une perspective émancipatrice. Et ça ne veut pas dire que ne doit pas y avoir des collectifs confus. On se questionne. Enfin là, c'est ce qu'on fait d'ailleurs. On discute tous ensemble.
Je me rends compte que je parle de mon point de vue privilégié dans une institution bien. Parce que je me rends compte que moi, mon énergie là, tu vois, j'ai pas envie de la mettre dans une institution.
C'est peut-être important de dire.
C'est pour ça, sans doute, que j'ai envie de la mettre, tu vois, en dehors. J'ai envie de la mettre en fait de faire des choses ensemble. Et j'ai l'impression que, tu vois, je suis moins dans. Et je dis pas que ça exclut, mais je suis moins dans essayer de convaincre plutôt que dans le fait de faire. De rendre les choses un peu contagieuses, tu vois.
Ouais, pour cette question d'un entre-soi soignant, je pense que c'est hyper important alors de connecter, de pas juste se dire soignant, mais qu'il y ait toute une ramification. Ce ne soit pas juste des soignants qui n'ont aucun background politique de ce qu'ils doivent faire ensemble, mais que d'une certaine manière ils soient déjà radicalisés. D'ailleurs, ça me rappelle ce que j'avais amené justement aux assises. J'étais là pour me radicaliser. Et en fait, ça me revient là maintenant en parlant.
Dis l'arabe en plus.
Et en fait, c'est hyper important de faire le lien, c'est que t'es pas que soignant, bah oui, t'es arabe en fait aussi, d'une certaine manière, on te fait croire que t'es un pur esprit soignant qui existe dans l'institution et qui permet tout ça.
Et on te fait croire que t'es arabe aussi, alors qu'on ne sait pas.
Mais on m'a fait croire que
j'étais
arabe.
Il
y a cru.
Il y a cru, on
l'a dit. Arabe radicalisé en plus.
Attention.
Voilà.
Je cherche mon tabac, je trouve pas.
Oh. Moi, j'en parle pas.
Non, mais pour les points radicalisés, c'est sûr que c'était
pas. Non, mais Adrien, t'as un problème avec ton tabac.
Ouais, j'ai un vrai problème avec ça. Enfin, c'est pas mon seul problème, mais.
Mais là, c'est un vrai problème aussi.
J'ai eu des nuits blanches et des jours gris, des jeudis noirs, vie de tous les jours. L'échec est un point trop lourd à porter. Du ghetto loin du ghetto, le monde est un grand ghetto. De ceux qui gambergent beaucoup, le monde impose son veto. La rue cause, la rue école, la rose, vers Cisco, vers tout ce que tu vois.
C'est toujours Radio Libertaire, 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'était le podcast de Démocratie sur Radio Libertaire, dans l'émission L'Entonnoir. Et maintenant, on écoute Romain Bonnel, de médecine, ex-médecine libertaire.
Normalement, je le monte avec mes grolles là, tu vois, non ?
Non, parce qu'on aurait dû balancer dans l'arme, mais c'est bon. Hein. Ouais. Attends.
De toute façon, ce micro aussi, il est...
Ah oui, il marche plus ce micro, c'est celui-là. Ouais. Magnifique, je me disais, c'est marrant, il fait pas du tout de bruit quand il le touche. non, c'est celui-là.
T'as certains départements où effectivement, t'as une unité d'urgence au sein de l'hôpital psychiatrique. Et puis tu as des départements où l'unité d'urgence psychiatrique, elle est dans les CHU.
D'accord.
Donc forcément ça change un peu la donne, quoi. C'est-à-dire que soit tu arrives directement dans l'HP, dans les murs de l'HP, et donc à ce moment-là pour en sortir c'est compliqué, ou soit tu arrives dans un hôpital général et ensuite tu es transféré dans un HP. Avant que ce soit le psychiatre qui rencontre la personne, il y a bien sûr d'autres intervenants, et effectivement ça peut être des médecins généralistes qui connaissent pas forcément bien la clinique psychiatrique qui vont recevoir la personne. Ensuite, il peut y avoir des infirmiers, infirmières psychiatriques. Et ensuite, ça peut être un interne et ensuite un médecin plus expérimenté qui reçoit la personne. Donc c'est rarement directement un médecin psychiatre qui reçoit une personne en crise. Alors la formation actuellement en psychiatrie, elle est extrêmement pauvre. C'est surtout une formation pratico-pratique. Donc on balance l'interne directement dans les services et il doit bosser comme s'il avait des années d'expérience. Ce qui n'est pas sans poser problème à la fois pour l'interne qui est souvent hyper anxieux de recevoir des personnes en crise ou voilà, dans des moments un peu perdus, et pour les usagers qui se retrouvent devant quelqu'un qui n'a pas forcément qui n'est pas forcément très sûr de lui, qui n'a pas forcément confiance en lui. Donc c'est pratico-pratique. La formation théorique, elle est assez pauvre. Au niveau psychopathologique, par exemple, il y a quasiment rien. On survole rapidement la psychanalyse, on survole rapidement d'autres formes de psychothérapie, mais c'est quelques heures par-ci par-là. Donc c'est surtout sur le terrain. Et ensuite, ça dépend des services. Il y a des services où les internes sont un peu encadrés et peuvent avoir recours à des médecins plus expérimentés. Et il y a d'autres services où ils sont complètement laissés à eux-mêmes et où il peut y avoir des choses assez graves, quoi. Comme en plus, voilà, on est dans quelque chose d'immédiat, il faut quelque chose qui soit tout de suite efficace, un peu une dictature de la vitesse, sans prendre en compte l'histoire de vie, les expériences passées. La chose qu'on va mettre en premier, c'est effectivement des psychotropes. Et donc le travail sur le long terme, le travail avec l'entourage, le travail social, il va passer en second plan, ou voire il va passer carrément à la trappe. Il y a une direction, il y a une bureaucratie, il y a une technocratie qui est très forte, qui est imposée maintenant, et qui est bien organisée et qui chapeaute tout et qui gère tout et qui, quand elle décide quelque chose au niveau du fonctionnement, de l'organisation des soins et tout ça, c'est quand même assez compliqué pour les soignants et pour les patients aussi de dire non, nous on n'est pas d'accord avec ça.
Un gestionnaire quand ça vous trace, ça prend le soignant pour une menace, tandis qu'il y a bien assez d'argent pour faire des chambres d'isolement. Un gestionnaire quand ça bricole, ça vous fabrique des protocoles où le parano passe en audience grâce à de la visioconférence. Waouh! Voilà les médocs, ça fait comme un électrochoc. Attention, voilà l'injection, on vous demande pas la permission.
Je te donne un exemple. Là, il y a pas longtemps, à l'HP de Caen, il y a un service, un secteur qui avait un service ouvert. La porte d'entrée du service était ouverte. La direction de l'hôpital a dit on va fermer cette porte et du coup ça deviendra un service fermé. Les médecins sont opposés à ça, l'équipe s'est opposée à ça, les infirmiers sont opposés à ça. Malgré leur opposition, la porte a été fermée. Donc ça c'est pareil pour tout. Hein. Au niveau du fichage, au niveau des rentrées de données administratives des personnes qui sont hospitalisées, c'est quand même assez compliqué, voire impossible, de contrer les décisions de la direction. Il reste des psychiatres, des médecins, des infirmiers, des infirmières ou d'autres soignants qui font ça quand même à visée humaniste, mais les choses sont mises en place de telle sorte que on peut plus, on n'a pas le temps, on n'a pas les outils pour penser et pour agir avec un certain degré d'humanisme. Encore une fois, il faut que tout soit vite fait rangé dans une case, que tout soit bien codifié et que tout soit technique. Donc voilà, la question du doute, la question du flou, la question de on ne sait pas. On va prendre le temps de mettre de côté, de réfléchir, de dire venir plus tard et tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'elle est de moins en moins là. Ouais. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà des choses au niveau affinitaire, c'est-à-dire qu'effectivement, il va y avoir des psychiatres qui vont se retrouver sur telle question affinitaire en disant voilà, là il y a des caméras de vidéosurveillance qui se mettent dans cet hôpital, bon, on refuse ça, mais voilà, c'est deux trois personnes qui vont pas en fait avoir de poids dans la décision de par exemple de la mise en place de ces caméras. Ensuite t'as des syndicats de psychiatres qui c'est pareil, ça c'est variable suivant les régions, suivant les hôpitaux, vont être plus ou moins forts, vont avoir plus ou moins de poids. Et puis t'as les collectifs de résistance un petit peu à la psychiatrie répressive, à la psychiatrie répressive qui enfin là c'est le collectif des 39, c'est d'autres associations citoyennistes qui vont un peu s'insurger en se focalisant surtout sur le discours de Sarkozy, d'Anthony de 2008 et sur ensuite la nouvelle loi qui a été pondue là en juillet 2011. Outre ça, il y a d'autres collectifs qui poussent un peu les choses un peu plus loin et qui estiment que la psychiatrie, l'aspect répressif de la psychiatrie, il n'est pas nouveau et qui s'intègre plus dans un système politique global, un système capitaliste. Moi, j'ai rencontré beaucoup de soignants qui bossent dans des services classiques, d'hôpital psychiatrique classique, qui sont quand même éminemment critiques de ce qui se passe, de ce qu'ils sont obligés de faire, de comment ils le font et tout ça. Et je pense qu'attendent qu'une chose, c'est qu'il y ait des ouvertures, des alternatives qui se montrent. Donc effectivement, s'il y a des collectifs qui se créent à droite à gauche, je pense que c'est important de les ouvrir sur les institutions, sur les HP, en tout cas sur le personnel de base, c'est-à-dire ceux qui sont au quotidien, qui travaillent au quotidien sur le terrain et qui attendent effectivement qu'ils soient pas tout seuls dans leur coin à galérer, à répondre aux commandes administratives et qui aient un soutien un petit peu de l'extérieur. Les associations d'usagers, effectivement, je pense qu'il y a du travail aussi à faire avec elles. Il y a eu des rencontres en Ariège en 2011 qui s'appelait Résistance à la psychiatrie et qui avait un peu pour but de discuter d'abord, de se rencontrer et ensuite éventuellement de mettre en place des alternatives comme il y a pu avoir dans les années 70-80 autour des lieux de vie, autour des communautés thérapeutiques, des choses comme ça. Concrètement, aujourd'hui, à ma connaissance, c'est assez précaire et c'est assez faible tout ce qu'il y a. Alors, il reste des lieux de vie, mais qui sont aussi avalés, digérés par le système capitaliste et qui n'ont pas grand-chose à voir avec les lieux de vie, je pense, des années 80. Il reste quelques lieux où les personnes sont d'accord pour recevoir des personnes en souffrance, pour prendre soin de personnes qui auraient des soucis actuellement. Mais il n'y a rien de coordonné, il n'y a rien structuré, il n'y a plus de réseau comme le réseau Asepsi auparavant, il n'y a plus d'agenda ou d'annuaire de tous ces lieux-là. Donc c'est des choses quand même très précaires. Et quand il arrive que une compagne ou un compagnon aille pas bien, et ben souvent on y est démuni et souvent ça met du temps et du coup on perd du temps et la personne va de moins en moins bien, donc c'est assez compliqué aujourd'hui. on a créé donc ce qu'on a appelé le collectif médecine libertaire, qui existe depuis un an et demi, et qui avait à la base pour vocation d'amener une réflexion et des questions autour de la médecine, et de promouvoir une autre forme de médecine, et puis aussi de mettre en place rapidement des lieux d'écoute ou des espaces de soins qui n'aient aucun lien avec l'État, ou qui ne bénéficient d'aucune subvention ou d'aucun contrôle politique ou administratif ou économique. Seulement, la réalité des choses a fait que c'est compliqué, il faut trouver un lieu alternatif pour recevoir des personnes, il faut former les copains, copines à l'écoute ou à recevoir ou à conseiller et tout ça. Au niveau du concret, pour l'instant, ce qu'on a pu mettre en place, c'était dans un squat à Caen, des ateliers qu'on a appelés ateliers psychocorporels autour de l'expression corporelle ou psychologique, autour des ateliers d'écriture, d'ateliers de Tai Chi Chuan, ou des ateliers juste d'écoute, de parole libre. Ça a été très éphémère parce que le lieu s'est rapidement fait fermer par les flics, et du coup il a toujours été question de trouver un autre lieu pour avoir un endroit un peu sécurisant, un peu confortable, un peu accueillant pour mettre en place ce genre d'activité. Et sur la question de la folie, je pense que ça c'est une question éminemment culturelle, et qu'effectivement c'est lié à une ambiance, sociale, c'est-à-dire comment on est prêt à accepter l'autre, comment on est prêt à accepter la différence, comment on est prêt à vivre aussi des expériences pas toujours agréables, et à en parler, ou à parler d'autres sujets qui comme la sexualité, enfin, qui sont des choses qui sont maintenant très bien contrôlées, codifiées, normalisées, et qui on est dépossédé de tout ça. La nuance qu'il y a, et qui n'est pas nouvelle, c'est que l'enfermement, il se fait à l'intérieur, il se fait dans la tête des gens, il se fait chez eux. Et que du coup, on n'a plus besoin de lieux d'enfermement comme l'HP ou comme la tôle, qu'on va mettre en place tout un tas de contrôles électroniques ou psychiques ou corporels, pour garder les gens enfermés déjà dans leurs pensées, et puis ensuite chez eux, faire en sorte qu'ils ne sortent pas de chez eux. Et donc après, quid des relations sociales, du collectif, de l'imaginaire collectif et tout ça, et de toute la poésie qui peut en découler. Il reste des jeunes psychiatres qui choisissent la psychiatrie, mais ceux qui choisissent ça par conviction sont quand même assez ahuris et hébétés de voir où on en est, de voir ce qui se passe en ce moment en psychiatrie, avec toutes les dérives et tous les abus qu'il peut y avoir, et puis toute l'aridité, toute la sécheresse de la pensée ou des réflexions qui ont pu être présentes à d'autres époques, et qui est complètement effacée par quelque chose de très pragmatique, avec très comportemental, très médicamenteux, où du coup certaines personnes cherchent à aller plus loin, c'est-à-dire soit sur l'aspect vraiment psychologique, soit sur l'aspect social et politique. Il y a un vrai travail à faire, et je pense qu'il y a effectivement des personnes qui peuvent d'ici quelques années, face à l'ampleur du dégât, se mettre en colère par rapport à ça, et du coup peut-être ouvrir des pistes qui peuvent être intéressantes dans les années à venir. Sur la solidarité, je pense que en abolissant la frontière entre soigné et soignant, des deux côtés tu dois être du côté du peuple. De remettre sur le tapis, parce que je trouve qu'elle est absente, la question de la lutte des classes, et se mettre du côté des dominés, des soumis, des pauvres et tout ça, et du coup que tu sois
à l'intérieur d'une institution de soins ou à l'extérieur, tu te dois effectivement d'être solidaire, de réclamer la justice sociale et de réclamer ce qui nous appartient à nous en tant que peuple. Et sur ces questions, effectivement, il n'y a pas d'autre chose que effectivement d'être solidaire, de favoriser l'entraide et de serrer les coudes par rapport à un pouvoir politique, médical et tout ça, qui est de plus en plus fort et qui atomise de plus en plus les individus.
Quand vient la nuit sécuritaire, on économise la lumière en enlevant la citoyenneté à ceux qui ont démérité. Résonne alors au coin de la rue l'appel à exclure les exclus, l'insupportable ritournelle des fous dangereux criminels. Toc, 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 voilà les médocs, ça fait comme un...
Radio Libertaire, ainsi se termine l'entonnoir pour cette semaine. La semaine prochaine, on retrouvera... André Bitton de CRPA pour l'actualité juridique autour de la psychiatrie. Et maintenant, on va peut-être écouter une rediffusion. Alors, il y aura à 14h sur Radio Libertaire des cailloux dans l'engrenage. Des cailloux dans l'engrenage, l'enfance pour la gratter, avec des lectures, lecture de L'Attache rouge, Pierre-Édric Galou, 2009, et Tu le savais, ça, de Soledad Bravi, Saltimbanque édition. Il sera question aussi de Claude Ponty, série Oli Bouli, Les Papillons.